Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès, aujourd'hui André Facetta, aux manettes techniques de cette émission. Et vous l'avez peut-être entendu il y a quelques instants avant le flash, quand j'en parlais avec Vincent Parisot et Christelle Rebière. Aujourd'hui, on s'intéresse à une affaire qui est pleine de zones d'ombre, qui est pleine de une enquête qui est pleine de complications. Le procès n'est pas encore fixé et de loin. Deux sexagénaires retraités, amis bourguignons, sont impliqués dans une sombre histoire de d'assassinat de prostituée et de d'agression d'une autre prostituée, toutes les deux d'origine africaine. Ça se passe près de Rully, donc en Bourgogne. Et je disais tout à l'heure que plusieurs acteurs de ce dossier redoutent une erreur judiciaire. Alors on va vous donner évidemment toutes les explications. C'est pas à nous de dire qu'il y a une erreur judiciaire ou pas, c'est pas du tout notre rôle. Notre rôle, c'est peut-être simplement d'ouvrir ce dossier pour vous, aujourd'hui, de façon à ce que chacun puisse se faire non pas une intime conviction, puisqu'on n'est pas au tribunal, mais simplement une opinion. Et je dois dire que notre attention a été attirée sur l'existence de cette affaire que nous ne connaissions pas avec Perrine Suquet, par quelqu'un, un auditeur de l'heure du crime, qui comme beaucoup d'autres, a utilisé RTL.fr. Vous savez, il y a une possibilité, vous allez à la page de l'heure du crime et vous avez un petit bouton « Soumettez une idée à l'émission ». Et donc, je dis toujours aux auditeurs, ben, écoutez, si une affaire vous a particulièrement frappé, on peut éventuellement la traiter. Mais alors, dites-nous pourquoi elle vous a, vous, frappé particulièrement. Et ce correspondant, dont on ne va pas donner le nom parce qu'il souhaite garder l'anonymat, mais qui est donc, on va dire, dans l'environnement de ce dossier, nous a laissé justement... toute l'attitude de nous faire une opinion. On ne nous a pas communiqué d'éléments du dossier. Il y a pas, bon, le secret de l'instruction n'a pas été violé par cette personne qui nous dit, mais je vais vous lire son texte. Bonjour, je vous propose de vous intéresser à l'affaire de monsieur Daniel Joblot et de monsieur Mazoyer, affaire qui s'est déroulée à Rully en Saône-et-Loire, accusé du meurtre d'une prostituée et de l'agression d'une autre. Et la dernière phrase de ce message, par souci d'objectivité, je vous laisse en prendre connaissance. Alors c'est ce que nous allons faire. Nous avons constaté très rapidement qu'une association très connue maintenant en France, qui se bat contre les erreurs judiciaires, contre ceux qui sont parfois condamnés à tort, l'association Action Justice de Roland Agré, nous avons constaté que cette association a été également avertie par une proche, je crois l'ex-compagne de l'un des deux retraités dont je parle. Et nous aurons tout à l'heure Roland Agré au téléphone parce qu'il a fait une contre-enquête, comme il le fait à chaque fois. Et Maître Claude Liorente, qui est avocat au barreau de Paris et qui est maintenant l'avocat de l'un des deux mis en cause, est avec nous. Bonjour Maître.
Bonjour.
Alors vous êtes entré dans ce dossier évidemment au même moment que Roland Agré. Tout à l'heure on aura votre confrère qui est d'ailleurs l'avocat historique de Daniel Joblot. On aura également au téléphone Emmanuel Boulan qui est journaliste au journal de Saône-et-Loire et qui a suivi ce dossier depuis le début, c'est-à-dire depuis 2011, en fait. Alors, juste une première question, Maître, sans entrer dans les méandres du dossier. Vous craignez, en conscience, qu'on soit en train de fabriquer, alors, volontairement ou involontairement, et je pense que c'est involontaire, mais quand même, une erreur judiciaire.
Alors, oui, tout à fait. C'est le fait que l'association de Roland Agré, comme vous l'avez signalé, est intervenue, est un élément pour bloquer ce mécanisme. Mais qui est un mécanisme d'endormissement, c'est-à-dire que on vous présente dans un dossier un coupable ou des coupables, et alors que une analyse un peu fine, enfin classique du dossier montre que on a sauté une étape.
Voilà, que des pistes n'ont pas été suivies, que tout
donc,
n'a peut-être pas été fait.
Et que à la fin. En ce qui concerne mon client, Monsieur Joblot, vous n'avez aucun élément à charge. En ce qui concerne les analyses ADN, en ce qui concerne le mobile, en ce qui concerne la connaissance des personnes, en ce qui concerne les analyses psychologiques et psychiatriques, c'est quelqu'un qui est déterminé comme tout à fait normal, ne présentant pas de pathologie. D'accord. En somme, rien. Et un élément qu'on peut-être qu'on soulèvera par la suite, qui est absolument incroyable, c'est-à-dire que cette personne qui est accusée d'avoir commis un meurtre, de tuer une prostituée avec 31 coups de couteau, était à l'époque âgée de 69 ans et gravement handicapée de l'épaule.
Alors, on va revenir sur tout cela. Effectivement, ce que vous dites est, fait qu'on ne peut que s'intéresser à ce dossier. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et tout d'abord, avant de donner la parole à ma consoeur du journal de Saône-et-Loire, on va en quelques mots voir ensemble comment l'affaire a éclaté. Le samedi 12 mars 2011. Un passant, intrigué par la portière ouverte d'une camionnette stationnée non loin de la Nationale 6, près de Rully, en Bourgogne, ce passant découvre le corps d'une prostituée d'origine africaine. Elle a été victime d'une agression particulièrement sauvage. Elle a été poignardée au thorax et à la gorge, comme il vient d'être dit, de 31 coups de couteau. L'enquête va d'ailleurs permettre d'établir rapidement son identité. Elle se prénomme Dorothée, elle se fait appeler Michel par ses clients qui peuvent la contacter sur un téléphone portable qui a été retrouvé par les enquêteurs. Son second téléphone portable, également retrouvé sur les lieux, lui sert à communiquer avec ceux qui ignorent totalement son activité de prostituée. L'autopsie va établir que le meurtre a eu lieu la veille, le vendredi, dans la soirée ou dans la nuit. Le mari de Dorothée avait signalé la disparition de son épouse le samedi matin et il affirmera d'ailleurs qu'il ne savait rien de ses activités de prostituée. Il pensait, dira-t-il aux enquêteurs, qu'elle était coiffeuse à domicile. Des enquêteurs qui n'excluent à ce moment de l'enquête aucune piste, crime de hasard, vengeance ou tueur de prostituées dans la région. Et c'est cette dernière hypothèse qui va se renforcer pour les enquêteurs quelques semaines plus tard, le samedi 2 avril, dans le même secteur. Une autre prostituée africaine subit une agression dont elle sort vivant par miracle. Un homme, c'est ce qu'elle raconte, se serait présenté à pied près de sa camionnette, lui expliquant qu'il avait garé sa voiture quelques centaines de mètres plus loin. Ce qui a embêté à ce moment cette prostituée qui avait l'habitude de noter les plaques d'immatriculation des voitures de ses clients quand elles étaient dans son champ de vision. Mais disons qu'elle le trouve calme, elle le fait monter dans sa camionnette et là, elle s'aperçoit alors que l'homme porte des gants en latex, il brandit un couteau, il l'atteint à la poitrine, mais elle se débat, elle hurle, elle lui empoigne le bras, comme elle le raconte, elle fait tomber le couteau et l'homme s'enfuit et disparaît dans la nuit. Interrogée longuement par les gendarmes, elle va décrire son agresseur comme un homme assez fort, assez baraqué, aux cheveux poivre et sel, dit-elle, portant une petite barbe, également poivre et sel, des sourcils épais, âgé d'une cinquantaine d'années, sans accent particulier. Un portrait robot est établi et diffusé à toutes les brigades de gendarmerie à partir de ce témoignage. Et le 21 septembre, on apprend que deux suspects viennent d'être interpellés. Ils s'appellent Daniel Joblot et Serge Mazoyer.
RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime.
Alors on va faire une première pause dans cette émission et puis ensuite on va vous raconter avec Emmanuel Boulan, journaliste au journal de Saône-et-Loire, comment les enquêteurs sont arrivés à ces deux suspects quelques mois en fait, après le meurtre et l'agression dont nous venons de parler.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Qui a tué cette prostituée africaine et pourquoi au mois de mars donc 2011 c'est toute la question qui doit être résolue, sachant que actuellement il y a deux personnes qui ne sont plus incarcérées mais qui ont été très longuement incarcérées et qui sont remis en liberté mais toujours mis en cause pour ce meurtre et pour l'agression que nous avons évoquée il y a un instant. On en parle avec Maître Claude Liorente, vous l'avez entendu, avocat au barreau de Paris, qui vient d'ailleurs, si je me permettais de le dire, maître, vous venez de demander au magistrat instructeur de prononcer un non-lieu.
Absolument, absolument. Avec mon confrère Alain Guignard, donc,
qu'on va peut-être avoir tout à l'heure au téléphone.
J'ai déposé une demande d'acte et collectivement, nous avons fait une demande de non-lieu concernant Monsieur Joblot.
D'accord. Alors, on va revenir tout à l'heure à la contre-enquête de Roland Ingret, avec Roland Ingret lui-même qui sera en ligne. Mais tout de suite, on salue Emmanuel Boulan. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors merci, je rappelle d'avoir pris un peu de temps cet après-midi pour nous parler de cette enquête que vous avez faite pour votre journal, bien sûr. Vous suivez l'affaire depuis le début. Si vous avez quelque chose à rajouter sur les circonstances que j'ai rappelées très rapidement tout à l'heure, faites-le. Mais sinon, ce que j'avais envie de savoir, et ce que tout le monde a envie de savoir, c'est comment les enquêteurs sont arrivés à ces deux personnes qui, disons, n'ont pas tout à fait le profil, en tout cas, vu de l'extérieur, de tueurs de prostituées.
Tueurs de prostituées, visiblement non, dans un premier temps, puisque M. Joblot est vigneron, depuis son plus jeune âge, sur la côte chalonnaise. Vous l'avez dit, il est sexagénaire, il a des enfants qui lui apportent son plus grand soutien jusqu'à présent. Mm-hmm. Pourquoi les enquêteurs sont intéressés à lui? Parce que, en fait, il est voisin de Dorothée, la victime. Oui. Monsieur Joblot a acheté quelques années avant les faits criminels un ancien complexe hôtelier le long de la route nationale 6, situé à quelques dizaines de mètres du fameux fourgon de Dorothée. Oui. Donc il est connu aussi des gendarmes pour ce fameux axe routier où évidemment les enquêteurs avaient remarqué cette acquisition. Monsieur Joblot est aussi connu des gendarmes pour avoir quelques affaires avec la justice, sans qu'il ait de casier judiciaire d'ailleurs pour des faits de violence. Oui. Donc voilà, M. Joblot est connu dans la région, c'est surtout lui en premier. Hein.
On peut ajouter à ce que vous venez de dire, Emmanuel Boulan, que ce local en question, il louait de temps en temps à une association justement africaine.
Une association africaine de Chalon-sur-Saône.
Qui organisait des soirées, quoi.
Il organisait des soirées, il dit que tout s'est toujours bien passé dans ces relations de location et de soirées. Donc
qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas des soirées échangistes, hein, c'est des soirées des membres d'associations de la communauté camerounaise.
Hein. Camerounaise de Chalon-sur-Saône, oui. Voilà. C'est toujours bien passé, il n'y a jamais eu de faits connus des gendarmes par rapport à...
D'accord. Donc les gendarmes arrivent à lui, en tout cas à M. Joblot, parce que, pour les raisons que vous venez d'expliquer. Et pour Serge Mazoyer,
C'était effectivement son ami, hein, quelqu'un avec qui il passait pas mal de temps. Donc Monsieur Joblot a été effectivement interpellé grâce avec le lien aussi du portrait robot dont vous avez dressé tout à l'heure, qui semblait dans un premier temps correspondre à son profil physique. Donc il y avait plusieurs éléments qui, au terme de sept mois après les faits criminels, qui ont permis de l'interpeller, lui et son ami avec qui il était donc le fameux 11 mars. Il avait passé la soirée, c'est pour ça qu'en conséquence, en ricochet, si on peut dire, M. Mazoyer était interpellé dans la foulée aussi.
Voilà, et donc interpellé, mis en examen, incarcéré.
Mois de détention et donc après une liberté sous contrôle judiciaire qui semble levée à l'heure qu'il est.
Oui, mais enfin, ça veut dire qu'il n'a pas de bracelet, quoi, mais qui sont... Maître Lurande, vous pouvez nous préciser leur situation actuelle.
Il faut ajouter une chose, c'est que Monsieur Joblot explique à un expert psychologue qui vient le voir à la maison d'arrêt que tout petit, il a été victime d'une... il était chez lui, chez ses parents, il y a eu un incendie, et un gendarme l'a désigné comme étant l'auteur de l'incendie. Mmh. Et il dit à l'expert, depuis j'en ai gardé un ressentiment contre les gendarmes. Mmh. Et il faut pas oublier une chose aussi, c'est que en août 2010, Monsieur Joblot est interpellé pour un contrôle routier.
Oui. Ça se passe mal, hein, c'est ça?
Ça se passe très mal.
Et il doit sortir de sa voiture, on le pousse dans la fourgonnette,
il est menotté. Par l'arrière, et comme il est âgé de 66 ans, à ce moment-là, pour une raison qu'on ne se connaît pas, mais en tout cas, l'épaule, la coiffe de l'humérus, ainsi que le ligament cède. Ce qui fait qu'il est opéré le 3 janvier 2011. Mm-hmm. Les faits sont du 12 mars 2011, donc deux mois avant. Oui. Et au moment des faits, il était porteur Il avait donc son opération toute fraîche, et il était dans l'incapacité absolue de donner des coups, de se défendre, sachant qu'il n'était pas loin d'avoir 68 ans alors. Voilà.
Et de droitier par ailleurs, c'est son épaule droite, on y reviendra tout à l'heure, parce que dans ses premières déclarations, la prostituée agressée avait dit que son agresseur était gaucher. Mais on reviendra tout à l'heure sur les zones d'ombre. Alors, cela dit, encore une question, Emmanuel Boulan, vous suivez, vous, ce dossier. Bon, nous, enfin, personne ne roule pour personne ici, hein. On comprend que Roland Agré, Maître Liorente, l'avocat de Joblot fassent se démènent comme des diables pour sortir leurs clients de cette affaire, parce qu'ils pensent sincèrement qu'il y a possibilité d'erreur judiciaire. Quels sont les est-ce que vous avez en tête un peu les éléments à charge et à décharge, parce que il faut parler des deux, parce qu'il y a eu de la téléphonie aussi, des enquêteurs sont pas arrivés comme ça pour arrêter ces gens sans aucune bille, si vous me passez l'expression.
Oui, il y a eu effectivement, ils ont été, le duo a été placé sur écoute avant leur interpellation. Hein. Il y aurait eu effectivement une phrase malheureuse de Monsieur Joblot, dit-il, malheureuse, en disant les gendarmes trouveront jamais. Mmh. Sous-entendu, peut-être ne trouveront-ils pas que c'est nous les assassins.
Voilà, et puis donc, je crois qu'il y avait un passage, il y avait un passage de cette conversation où ils semblaient se mettre d'accord pour dire que ils avaient dîné ensemble, quoi. Quelque chose comme ça.
Voilà. Ouais. Donc après la soirée au restaurant. Donc ça, l'addition de ces éléments, la proximité du local, la mise sur écoute, la location à la communauté et le portrait robot. Ce sont pas les éléments de la justice. Voilà. Ce qui interpelle davantage à l'heure qu'il est, c'est que ils n'ont fait, si on peut dire, que 5 mois. Évidemment, on considère que c'est beaucoup trop, que 5 mois de détention. Donc ils disent que si la justice pense que c'est vraiment la décertitude et que c'est eux les assassins, pourquoi ne pas les laisser en détention jusqu'au jugement. Donc ils ont bien conscience des doutes.
Alors justement, les doutes, on va dans un instant en parler, mais on peut l'évoquer très rapidement tous les deux. La police scientifique et technique d'abord, c'est-à-dire que l'ADN qui a été trouvé sous les ongles de la victime, de Dorothée, ne correspond pas à l'ADN ni de l'un ni de l'autre, hein, des deux. Vous me confirmez ce point? Reste inconnu. Bon, la description donnée par la prostituée qui était agressée, les sourcils épais, les sourcils fins, les yeux sombres, il a les yeux bleus, les cheveux poivre et sel, il a les cheveux d'une blancheur immaculée qui se confond pas avec le noir. Bon, vous connaissez tous ces éléments, évidemment, quoi. Vous avez parlé, Emmanuel Boulon, un peu aux enquêteurs au cours de votre enquête pour votre journal.
Oui, donc le dossier est constitué effectivement d'éléments, semble-t-il, quand même légers, et disent quand même un peu en coulisses qu'un renvoi dans la cour d'assises irait dans le mur. Hein. Donc, y a, comme vous l'aviez dit au début de l'émission, il n'y a pas d'éléments probants assez solides pour les renvoyer pour l'instant devant une cour d'assises. C'est pour ça que donc leur avocat demande évidemment un non-lieu. Et il s'interroge surtout pour avoir eu M. Joblot encore hier au téléphone. Il voudrait évidemment connaître qui sont les vrais coupables, parce qu'ils disent que les vrais coupables sont peinards. Que leur vie, c'est horrible, surtout pour leurs proches, hein, leurs enfants, qu'ils en souffrent vraiment. Hein. Donc ils attendent la vérité.
Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué cette enquête, qui est loin d'être terminée, hein, puisque l'affaire est loin d'être terminée également. Merci beaucoup, Emmanuel Boulan.
Merci à vous.
On va faire une pause, et puis ensuite, on va retrouver Roland Agré, peut-être Maître Alain Guignard, qu'on a du mal à joindre cet après-midi au téléphone. Maître Alain Guignard est avec Claude Durante maintenant, l'avocat de Daniel Joblot, d'une certaine manière, Alain Guignard a toujours été de tout temps l'avocat de Daniel Joblot, y compris pour les démêlés qu'il a eu auparavant. Donc ce sera intéressant de l'avoir tout à l'heure pour parler de la réalité et du contenu réel du dossier, on va dire, judiciaire d'ailleurs, qui n'existe pas, de Daniel Joblot. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Qui a tué Dorothée? Qui a agressé cette autre prostituée d'origine également camerounaise quelques semaines plus tard, au tout début du mois d'avril, alors que le meurtre de Dorothée remonte au 11 mars dans la nuit? Lorsqu'on pourra répondre à cette question, eh bien, on pourra dire que la justice a vraiment mis la main sur le coupable de ce meurtre. Pour l'instant, il y a deux personnes qui sont impliquées dans ce dossier. Vous avez compris depuis le début de l'émission que ces deux personnes qui crient leur innocence sont maintenant relayées par Action Justice, l'association de Roland Agré, qui a mené une contre-enquête dont nous allons parler tout de suite avec lui. Bonjour Roland Agré.
Bonjour à vous tous.
Alors on vous écoute parce que nous vous connaissons. Hein, on sait pourquoi d'ailleurs vous avec cette association Action Justice, vous continuez inlassablement à vous battre quand vous, à l'issue d'une contre-enquête, vous considérez qu'il y a erreur sur la personne, si j'ose dire, parce que vous avez vécu ça dans votre chair, hein, vous avez mis des années et des années à faire reconnaître votre innocence, et alors que vous aviez été condamné à tort. Prenez votre temps pour nous dire, lorsque votre association est contactée comme ça, j'imagine, par des proches des deux personnes impliquées, qu'est-ce qui fait que vous saisissez vraiment de l'affaire? Dès le début, vous avez pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait?
Écoutez, j'ai été contacté par Madame Joblot. Effectivement, elle avait des accents de sincérité, puisqu'elle était directement témoin dans l'affaire des agissements de son mari. Mmh. J'ai également eu Maître Guignard qui m'a expliqué quand même certaines choses de l'affaire. J'ai contacté également Madame Boulan, qui est journaliste.
Oui, qui était sur notre antenne il y a quelques instants.
C'est un peu la mémoire de cette affaire. Mmh. Donc, évidemment, il a fallu que je vérifie, parce que je ne peux pas me fier simplement sur des dires. Je peux bien croire les gens, faut-il encore que ce soit accompagné de faits. Ouais. Donc, si vous voulez, sur le terrain, déjà, premièrement, le crime de Dorothée s'est déroulé de façon très sauvage. Elle a pris presque 31
coups de couteau,
mais dans un lieu très confiné. Il s'agit d'un fourgon. Mmh. Or, dans un fourgon, j'en ai demandé également l'avis au professeur Michel Rodler pour conforter le mien. Oui. C'est que un ou deux assassins sont obligatoirement, dans un tel lieu aussi confiné, obligés de laisser des traces papillaires, des traces ADN, des traces... Mmh. Bon. Or, sur ces lieux, on retrouve des ADN. Mmh. Sauf que ils n'appartiennent ni à M. Joblot, ni à M. Mazoyer. Alors, on peut simplement dire que ces gens-là auraient été assez malins pour ne pas laisser leurs traces, mais de laisser des ADN qui ne leur appartiennent pas, en raisonnant dans l'absurde. Deuxièmement, au moment des fêtes, il faut savoir que M. Mazoyer est très malade, très handicapé, obèse, qu'il marche avec difficulté. Que M. Joblot, lui, il a un bras totalement immobilisé une prothèse qu'on lui a mis. Donc, de façon physique, cet équipage-là ne peut pas monter dans un fourgon et assassiner quelqu'un. Mmh. On sait aussi que autour de cette Dorothée, il y avait eu plein d'histoires. On avait fait brûler son camion, il y avait eu plein...
Plusieurs mois plus tôt dans une autre région. Hein.
C'est ça. Mmh. Alors, si vous voulez, il y avait une ambiance très malsaine dans ce milieu camerounais qui avait vu, d'ailleurs, cette prostitution complètement décimée à Chalon-sur-Saône dans les studios.
C'est l'enquête des gendarmes des polices de la région qui avaient combattu ce réseau, mais qui s'était reconstitué, d'après ce que j'ai compris.
Il s'était reconstitué, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais été démantelé en dehors de Chalon, puisque territorialement, la police de Chalon a fait son travail sur Chalon. Mmh. Mais cela dépendait des gendarmes, tout ce qui était sur les routes, et donc il n'y a jamais eu de commission rogatoire visant justement cette prostitution extérieure qui n'a fait que s'aggraver. Mmh. Et alors, en ce qui concerne Delphine qui s'est fait agresser quelque temps après, alors, si vous voulez, il y a une chose qui m'a interpellé immédiatement. C'est que tout est venu d'elle. Elle a reconnu sur un portrait robot, Arculon, puis après plus formellement, Daniel Joblot. Oui.
Alors, enfin, pardonnez-moi, le portrait robot, il a été établi sur ses indications.
Sur ses indications, oui. Hein, oui. Mais une fois ce portrait robot établi, oui. Quand on connaît M. Joblot comme je le connais, c'est un petit peu comme si vous me disiez que José Garcia ressemble complètement à Gad Elmaleh, voyez-vous. Non, non, mais c'est exactement ça. Le oui. père Joblot, les cheveux bien blancs, oui. un regard bleu, mais alors bleu translucide presque, oui, très beaux yeux d'ailleurs.
On n'oublie pas. Quoi,
on ne l'oublie pas. Oui. Et alors quand même, on se base quand même là sur un énorme mensonge. C'est-à-dire qu'elle raconte son agression. Elle dit que son agresseur est venu avec un gros couteau de boucher qui lui oui. a planté dans le ventre, ça c'est certain. Mm-hmm. Mais elle rajoute qu'elle a réussi à le désarmer mm-hmm. en prenant le couteau par la lame. Mm-hmm. Or, les gendarmes constatent qu'elle n'a pas la moindre égratignure à la main.
Ouais, ouais.
Alors moi, je voudrais bien qu'on m'explique comment on peut désarmer quelqu'un ouais. en prenant un couteau bien tranchant de boucher mmh. par la lame pour désarmer un homme mmh. Sans se faire blesser.
Ouais.
Donc si vous voulez, moi, j'ai très vite acquis la certitude que le ou les coupables étaient à chercher dans les milieux de la prostitution camerounaise.
Mmh.
Et non pas, si vous voulez, la seule certitude que j'ai acquise dans ce dossier, c'est que Daniel Joblot et Serge Mazoyer sont absolument non coupables des faits qu'on veut leur imputer. Voilà,
alors,
c'est la seule certitude que j'ai.
Je vous remercie beaucoup, Roland Gray. Restez en ligne, hein, on va faire une pause, mais je voudrais donner ensuite la parole à Maître Liorente, parce que il y a d'une part tout ce que vous venez de dire, qui est évidemment très troublant, mais enfin, on n'est pas policier, on n'est pas juge d'instruction, on n'est pas avocat non plus. Donc je voudrais savoir, parmi tous ces arguments, qu'est-ce qui est de nature à fléchir la justice ou à être pris en compte par la justice. Je voudrais simplement ajouter qu'on vient de recevoir au standard d'RTL au 3210 un coup de fil de l'ancienne maire de la ville de Pontou où monsieur Mazoyer faisait partie du conseil municipal et Daniel donc nous dit c'est un homme qui pour moi serait incapable de faire du mal à une mouche. Ça correspond à peu près à tout ce qu'on dit de leur personnalité, tous les proches des deux personnes impliquées. Donc vous pouvez continuer bien sûr à nous appeler au 3210 ou à nous contacter par rtl.fr si vous êtes dans cette région, si vous avez une réaction ou un témoignage même à apporter sur ces affaires. Et on se retrouve dans un tout petit instant.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Alors nous allons retrouver Roland Agré tout à l'heure et Emmanuel Boulan, notre consoeur journaliste au journal de Saône-et-Loire qui suit l'affaire depuis le début. Et mais là maintenant, je me tourne vers vous, Maître Claude Liorente, donc en rappelant que avec Maître Guignard, qu'on n'arrive pas à joindre décidément, je lance un appel, si Maître Guignard nous entend, je sais pas, voilà, on cherche à vous joindre, on n'y arrive pas. Vous êtes avec lui l'avocat de Monsieur Joblot.
Oui.
Monsieur Mazoyer est au même titre que lui, donc mis en examen dans cette affaire. Bon. Alors, on a entendu ce que disait Roland Agré. J'ai dit tout à l'heure que vous venez de demander au magistrat instructeur un non-lieu. Évidemment,
oui.
vous avez argumenté
oui.
votre demande. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à tous les éléments qui peuvent faire douter de la culpabilité de ces deux hommes?
L'affaire étant toujours à l'instruction, je ne peux pas dévoiler des éléments précis du dossier sous
Bien
peine
sûr.
De violer le secret de l'instruction, le secret professionnel plutôt,
D'accord.
parce que les avocats sont tenus au secret professionnel et non pas au secret de l'instruction.
D'accord.
Donc je ne vais pas ici dire à tel
pied... Oui, puis c'est pas le lieu, franchement.
Ça servira à rien. Je dis, moi, ainsi que tout observateur qui a le dossier en main, y compris, je pense, les juges, on peut pas... C'est incontournable. Il y a, pour moi, un élément qui a été oublié dès le départ.
Mmh.
Et cet élément permet, à mon sens, de remonter, peut-être... avec toutes les précautions,
ouais.
À quelque ouais. chose qui pourrait éclairer.
Donc on pourrait mettre ça au chapitre des pistes non suivies.
Voilà,
des pistes possibles, mais non suivies
tout à fait.
Par les enquêteurs,
tout
parce qu'ils ont dû penser que la piste qui suivait était la meilleure.
Et,
quoi.
Et donc, ce qui permet de dire que cette idée n'est pas tout à fait aberrante, c'est que trois ans après, on n'a toujours rien, on tourne en rond.
Mmh.
Et dans toutes les affaires du type Grégory, Holmes, on tourne en rond pendant des années, voire des dizaines d'années.
Mmh.
Donc, il est sûr que à la fin, quel est l'élément, un seul élément Joblot et Moisoyer sont des gens qui sont psychiatriquement, et de les expertises sont dans les dossiers, des gens tout à fait normaux qui ne présentent pas de pathologie. Or, pourquoi auraient-ils été tués des prostituées qui ne leur avaient rien fait? Et il n'y avait pas mobile financier, ils ne les connaissaient pas. Bon. Donc, on a déjà une impasse sur le plan de la culpabilité du raisonnement.
D'accord, oui. Alors, il y a eu quand même, je ne sais pas si vous êtes autorisé à en parler ou pas, mais il y a eu également, on a parlé de police technique et scientifique, il y a eu bien sûr la recherche d'ADN, donc vous confirmez que l'ADN, en tout cas, retrouvé, je ne sais pas si on en a retrouvé aussi sur le lieu de l'agression de la deuxième prostituée, mais en tout cas, s'agissant du meurtre de Dorothée, l'ADN retrouvé sous les ongles de la victime ne correspond pas à l'ADN ni de M. Mazoyen, ni de M. Joblot. Quoi.
Oui, absolument. Ouais. Et il est sûr que les enquêteurs, moi je poserai la question, ont-ils véritablement mesuré ce qui s'est passé une heure avant que la première victime, Dorothée, cesse d'appeler sur son portable.
D'accord.
Voilà. Donc, parce que là, il se passe des choses qui sont véritablement, pour quelqu'un qui n'est pas spécialisé en enquête, des indices forts en disant elle voulait s'en aller, elle voulait refaire sa vie. Elle avait déposé un rendez-vous.
On a retrouvé sur son ordinateur, disons-le, la trace d'une demande d'emploi qu'elle voulait changer de région. Elle voulait que ça ne se sache pas parce que elle avait contacté pour cette annonce sous un autre nom, alors qu'elle avait des papiers parfaitement en règle. Hein. Donc, si elle n'avait pas voulu cacher, en tout cas à quelqu'un, le fait qu'elle avait ce projet de partir, elle aurait gardé son nom. Et cet emploi, elle était sur le pratiquement certaine d'y arriver, où elle voulait aller dans la région d'Annemasse, hein, je crois.
Oui, c'est-à-dire que d'après cet élément, elle avait un rendez-vous.
D'accord.
Et donc, une personne qui est tuée et qui veut complètement changer de vie, c'est déjà un indice fort pour les enquêteurs.
Bon,
on a l'impression que ça n'a pas été intégré dans l'enquête. Maintenant, j'espère me tromper.
Ouais. Alors, il y a d'autres éléments. Alors, on a fait évidemment tous les disques durs, etc. Il y a d'autres éléments. Je pensais en parler avec Maître Guignard, mais on n'arrive vraiment pas à le joindre. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le faire. Vous n'étiez peut-être pas dans le dossier à ce moment-là, mais vous connaissez évidemment le contenu du dossier sans aller plus loin dans le secret de l'instruction. Mais là, on est dans des actes d'enquête. Il y a une confrontation, à un moment, entre cette prostituée qui a été agressée, qui, dit-elle, a réussi à faire fuir son agresseur. Elle a été blessée quand même dans cette agression.
Alors, oui, elle a été.
Elle a pris un coup de couteau quand même. Bon. Alors, cette personne décrit son agresseur. On fait un portrait robot. On arrive à Monsieur Joblot et avec toutes les différences qu'on a soulignées tout à l'heure. Bon. Alors, il y a une confrontation un jour ou l'autre.
Alors, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, cette personne fait un portrait robot de l'agresseur qui correspond pas du tout à Monsieur Joblot. Dans un deuxième temps, il y a un tapissage d'organiser avec des personnes.
Alors, c'est quoi un tapissage?
Un tapissage, ce sont un suspect ou des suspects mélangés à des policiers qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques.
D'accord, qu'on met dans une pièce, il y a une vitre sans teint ou
absolument
une vitre avec teint, je sais
absolument
pas. Mais et la personne doit dire, reconnaissez-vous dans les gens qui sont là, reconnaissez-vous la personne qui vous a agressé.
Déjà, une première chose, c'est que dans ce tapissage, l'un des suspects, et je ne vais pas dire le nom, n'était pas là. C'était un barbu, il n'était pas dans le tapissage. Donc, pour moi, tout est faussé.
Bon,
donc, lors de ce tapissage, alors que le portrait robot qui était fait, comme vous l'avez souligné, par la victime, la prostituée, ne correspond pas du tout à M. Joblot, elle le reconnaît. Elle le reconnaît
elle dit c'est lui.
Voilà, oui, c'est lui.
Je suis sûr, c'est lui. Alors
c'est
qu'il
lui
a les yeux bleus, elle avait dit les yeux foncés, etc. Oui.
Là, on en vient à l'idée que tout le monde comprendra que ce témoin est un témoin fragile, influençable, qui a peur et qui finit par dire le contraire de ce qu'elle avait dit au début. Voilà, c'est.
Alors, on va faire une nouvelle pause, on va retrouver Roland Agré ensuite, parce que, encore faut-il, et Roland Agré va nous y aider, c'est de comprendre, c'est pas fait pour accuser, il n'y a jamais de volonté, hein, l'erreur est humaine, la conviction des enquêteurs, quelquefois, prend le pas sur l'analyse du dossier, enfin, c'est difficile de se mettre dans la peau des gens, mais on va le faire avec Roland Agré dans un instant, pour voir, à son avis, quelle piste devrait être suivie, sans désigner, évidemment, de personne, c'est pas le lieu de le faire, mais quel secteur d'enquête devrait être peut-être éclairé à nouveau, et puis comment il est possible qu'on en arrive à cette situation. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et nous continuons à explorer ce dossier, à poser toutes les questions qui se posent à cause de cette situation particulière de deux retraités sexagénaires bourguignons amis impliqués dans cette affaire de meurtre de prostituées et d'agression de prostituées. On a compris que les proches, que l'association Action Justice, que les avocats considèrent que ces gens sont accusés à tort. Ben enfin, on imagine aussi, mais tout le monde est obligé de respecter le secret de l'instruction, que les magistrats, instructeurs ou les services d'enquête considèrent que eux, ils ont fait leur travail et que ces gens sont effectivement logiquement impliqués dans l'affaire. Alors, on fait pas les procès à ciel ouvert ici. On retrouve Roland Agré et je voudrais vous demander, Roland Agré, d'abord de revenir sur la question du mobile et sur le sentiment que vous avez, vous, après avoir fait votre contre-enquête, sur comment on pourrait expliquer Si M. Mazoyer et M. Joblot ne sont pas coupables, qu'est-ce qui aurait pu se passer et pourquoi ?
Eh bien, déjà au niveau du mobile, il n'y en a pas. Parce qu'il faut savoir que Dorothée, il ne la connaissait pas physiquement, il ne l'avait jamais vue, jamais rencontrée, donc il ne la connaissait pas. Mmh. C'est Mazoyer qui a insisté auprès de M. Joblot pour lui dire « Bon, avant que nous allions à Chalon, j'aimerais passer devant » pour voir sa tête.
Ça veut dire que le soir où cette prostituée a été tuée, Joblot et Mazoyer sont passés, disent-ils, en voiture devant la camionnette.
À la demande de Mazoyer et non pas de Joblot.
D'accord.
Mmh. À noter que Mazoyer a toujours nié toute implication, mmh, la sienne comme celle de Monsieur Joblot.
D'accord.
En ce qui concerne Delphine, c'est encore beaucoup plus troublant. C'est-à-dire que Joblot ne la connaît pas, ne l'a jamais vue, ne sait même pas qu'elle existe. Alors, on sait qu'il était chez lui. Toute sa famille l'a vu et revu dans sa propriété. Mmh. Alors, il faudrait que subitement, parce que la police dit, enfin les gendarmes disent, oui, il a commis cette agression pour l'éloigner du crime qui a été commis avant. Je trouve ce raisonnement particulièrement...
Ah, pour emmener pour brouiller les pistes, vous voulez dire.
Pour brouiller les pistes, oui. Mmh. Je trouve ce raisonnement particulièrement stupide. Mmh. Il faudrait aussi admettre, toujours en raisonnant dans l'absurde, parce que ce dossier, c'est constamment cela, que, subitement, Monsieur Joblot, dans sa propriété, a été atteint d'une fulgurance incroyable qui l'a conduit à dire, ben voilà, il y a une prostituée à tel endroit, parce qu'il ne savait pas du tout où elle était, il ne savait pas qu'elle existait, je le redis. Mmh. Et il serait allé là-bas donner un coup de couteau, il serait rentré chez lui, il serait passé à table avec sa famille et tout. Mmh. Bon, évidemment,
Roland Agré, des alibis, parce que c'est toujours par là que ça commence, hein. Dans une enquête de police, on demande qu'est-ce que vous faisiez à cette heure-là, parce qu'on sait qu'à cette heure-là, ou on croit savoir qu'à cette heure-là, il y a eu un meurtre ou une agression.
Eh ben écoutez, c'est très simple, c'est que si on prend en détail le jour où la pauvre Dorothée a été assassinée, on se rend compte, et simplement un timing sur les horaires, on se rend compte qu'ils n'auraient pas pu commettre le crime en 3 minutes, en supposant que ce soit eux, bien toutes les impossibilités qu'il y a, puisqu'on les retrouve à Chalon et un village à côté où ils ont été vus, où ils ont été pris par leur téléphone, on les retrouve dans listing téléphonique.
Et où ils dînent ensemble ce soir-là, donc.
Et dînent ensemble ce soir-là, il n'y a aucun problème,
il y a même un témoin. Le cuisinier vient parler avec eux, donc on est sûr que...
Leur parcours, il est très clair, on sait qu'ils sont partis, lui il habite malheureusement pas loin des lieux du crime, hein. Il avait son hôtel en réfection. Ouais. Bon, mais si on considère le temps qu'il est parti, qu'il est arrivé à Chalon, qu'il est arrivé ensuite au restaurant pour dîner,
Vous dites que ça ne laisse pas le temps d'une agression mortelle.
Y a pas, matériellement, il n'y a pas du tout le temps. Mmh. Et il n'avait aucun intérêt, il ne connaissait pas cette personne.
Mais Roland Agré, Roland Agré, je vais me faire l'avocat du diable.
Oui.
Si les enquêteurs sont persuadés qu'ils sont coupables, c'est qu'eux pensent qu'ils ont eu le temps ou que l'un des deux a eu le temps.
Je ne suis pas persuadé, justement, qu'eux pensent qu'il est vraiment coupable. Mmh. Sinon, ça saurait il y a longtemps qu'ils auraient été renvoyés aux assises, ils n'auraient pas tant d'atermoiements. Ce que je veux dire, c'est que les enquêteurs ont beaucoup travaillé.
Mmh.
Ils ont travaillé comme des fous, je peux vous le dire.
Mmh.
Mis à part qu'ils se sont fait rouler dans la farine de bout en bout. Mmh. Il faut savoir qu'ils ont affaire à des experts en manipulation.
Mmh.
Vous avez par exemple un témoin, qu'est-ce qu'il raconte ? Ben, il raconte que c'est une femme, elle est enceinte, qu'il faut la ménager en garde à vue, etc. On se rend compte de quoi ? C'est pas vrai qu'elle n'est pas enceinte.
Ouais.
Et il n'y a que des tissus, des affabulations, des allégations mensongères tout au long. Il y a un moment donné.
Pardonnez-moi parce que je vois le temps qui passe, mais pour vous, il y a eu une vengeance dans un réseau parce que ces deux prostituées n'auraient pas respecté je ne sais quel code ou auraient fauté pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et l'une aurait été punie par cette agression mortelle et l'autre aurait échappé vraiment par miracle et elle ne donnerait pas la véritable description de l'agresseur par peur ?
Ben évidemment qu'ils ont peur. Vous savez, j'ai un petit peu trempé mes chaussures un peu là. Hein.
Oui.
Bon, il y a un endroit qui tient le nœud de l'histoire. J'y suis allé même accompagné de journalistes. On est parti assez vite. Vous voyez, on n'était pas du tout les bienvenus, je peux vous le dire.
D'accord.
Donc, si vous voulez, il y a une chape de plomb. Mmh. Et des menaces, évidemment, il y en a eu. Vous savez, dans ce genre de milieu-là, on ne fait pas de cadeaux.
Mmh.
Il y a eu des menaces, il y a eu des mises à l'amende, il y a eu beaucoup de choses. Et alors, vous avez des gens, par exemple, qui se trouvaient devant les gendarmes, et ils ont des téléphones, et ils ont au moins 5 ou 6 puces de téléphone. Ils changent de numéro comme... voilà. Ils changent d'identité aussi pour certains.
Ouais.
Mais les gendarmes ont été complètement noyés.
Mmh.
Et effectivement, lorsqu'ils ont eu le père Joubeau, le père Mazoyer, ben pour eux, ça a été limite une aubaine.
Mmh.
Ils ont eu quelqu'un à désigner.
Mmh.
Mais ce dossier, je ne vois pas comment on pourra le prêner aux assises, parce que il est évident que j'irai témoigner. Et puis, il n'y a rien qui tient.
Non. Je vous remercie beaucoup, on a compris hein, votre point de vue. Merci infiniment, hein, Roland Agré. Le mot de la fin, je voudrais le donner à Maître Liorente. Qu'est-ce que vous espérez sur l'évolution de ce dossier maintenant ? Parce que, donc, évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de renvoi devant une cour d'assises. Vous avez demandé donc un non-lieu pour votre client. Mais qu'en est-il de M. Mazoyer ? Comment vous voyez la suite du dossier ?
Moi, j'ai demandé également des actes d'instruction. Donc,
complémentaires d'instruction.
Je ne vais pas vous en donner la teneur aujourd'hui.
C'est la possibilité, voilà, une possibilité qu'a l'avocat de dire
ça.
Je demande au magistrat
instructeur
de faire... J'ai demandé 4
actes nouveaux d'instruction.
D'accord.
Parmi lesquels l'enquête sur les lieux où Dorothée devait aller travailler.
Hein,
voilà, ça paraît tout à fait important. Donc, est-ce que je n'ai pas eu de réponse ? Est-ce que ces enquêtes sont en cours ? C'est pas exclu.
Oui, bien sûr. Oui.
Je crois qu'il faut garder confiance en matière d'enquête. On peut se tromper. Comme tout le monde peut se tromper, un avocat, un juge, un enquêteur, ça n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est admettre que...
Pouvoir admettre une erreur, s'il y en a eu.
Si erreur, il y a eu.
Oui.
Il faut essayer, il faut garder espoir, et il faut surtout que la justice prévale.
Est-ce que M. Joblot, M. Mazoyer, espère ?
Alors,
d'un mot, hein.
Voilà, ce sont des personnes âgées qui sont désespérées parce que le temps passe, 3 ans de mise en cause, l'opinion publique les désigne comme de possibles coupables, c'est terrible.
Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Je crois que chacun de celles et de ceux qui ont écouté l'émission peuvent se faire, comme je le disais au début, une opinion sur cette affaire dont on reparlera certainement. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques secondes.